voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Que va-t-il se passer après le rapport des parlementaires de LRM en France sur le processus de délivrance des visas Schengen en Afrique par des consulats français ? D'abord, notre invité décryptage sur le Sénégal.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Docteur LH Mamadou Ndiaye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la prévention au ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale. Comment s'organisent les autorités médicales de votre pays face à la deuxième vague et au risque de nouvelles variantes du Covid-19?
Les autorités sénégalaises, ou en tout cas le système sénégalais, s'organisent comme auparavant, c'est-à-dire en mettant l'accent sur la prévention, notamment la surveillance pour la détection de tout cas, donc le renforcement de la surveillance, mais également le volet prise en charge, qui également était un volet extrêmement important, également toujours en vigueur, mais également, il y a le volet engagement communautaire, l'implication forte de la communauté, qui était également un des volets importants de cette première phase de COVID-19, notamment. Cela a également été renforcé. Tout ceci a été suivi d'un accompagnement d'un certain nombre de mesures administratives, notamment qui ont été prises par l'autorité politique au plus haut niveau pour accompagner l'ensemble de ces mesures et pour aider encore une fois à maîtriser ou à contrôler cette pandémie au niveau du pays. Et que cette nouvelle variante n'a pas modifié de manière importante cette architecture de prise en charge ou de gestion de la pandémie au Sénégal.
La prise en charge des malades se fait-elle toujours avec de la chloroquine ou avez-vous revu le traitement?
Oui, bien sûr, là, les responsables des centres de traitement vont vous dire exactement dans la profondeur du protocole en vigueur, mais il n'y a pas de processus ou d'un protocole qui a été fondamentalement remis en jeu. Tous les protocoles sont valablement réavérés pour mieux prendre en charge encore une fois les malades parce que les gens ont suffisamment de recul par rapport à cette prise en charge.
Le couvre-feu a été prolongé jusqu'au 26 janvier prochain à Thiès et à Dakar, où le Covid-19 sévit fortement. Mais la situation dans d'autres villes comme Kaolack inquiète aussi. 16 cas communautaires rapportés ce mardi.
Oui, vous avez raison. Il est question, c'est de plus en plus actuel quand même. Éventuellement, si la tendance actuelle se poursuit, et il n'est pas exclu que d'autres régions comme la région de Kaolack ou la région de Djourbel puissent entrer également dans le lot. Les régions qui seront également en cours feu, mais en tout cas, c'est d'actualité compte tenu de la tendance actuelle, mais peut-être que les choses vont changer. Mais actuellement, effectivement, c'est une tendance aussi au niveau des régions.
Dans cette même ville, Kaolack, 33 malades qui avaient refusé d'être soignés dans le centre de traitement ou chez eux ont disparu. A-t-on retrouvé leurs traces?
Je n'ai pas encore suffisamment d'informations par rapport à ça. Je préfère peut-être attendre peut-être dans la prochaine édition pour vous en dire un peu plus.
On observe également que les populations n'adhèrent pas à ce couvre-feu décrété pour contenir la progression du Covid-19. Cela a suscité des manifestations dans certains quartiers du Sénégal. Comment arrivez-vous aujourd'hui à sensibiliser les populations pour qu'elles comprennent que ces mesures vont permettre de contrôler cette épidémie?
Oui, c'est vrai qu'au début, il y a eu des soubresauts et également des préparations de la part des populations. Mais il faut trouver qu'il y a eu deux éléments. Il y a eu des mesures coercitives quand même, qui sont engagées, notamment les forces de l'ordre sont déployées pour aider quand même à éviter cette mesure administrative extrêmement importante. Mais il y a également le volet sensibilisation. Il y a aussi le volet sensibilisation. Et que je pense que les uns et les autres sont en train de revenir à de meilleurs sentiments. Et que le groupe actuellement, il est observé pratiquement par l'ensemble des populations au niveau des régions.
Le président Macky Sall a promulgué ce mardi la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège élargi à la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires. Qu'est-ce que cela change pour la communauté médicale par rapport à la prise en charge de cette pandémie?
Non, ça permettra quand même aux mesures administratives, aux mesures qui étaient des mesures d'accompagnement importantes par rapport à la gestion de cette pandémie, que ces mesures soient, puissent être observées. On a vu aujourd'hui l'importance que les autorités administratives dans les localités peuvent encore prendre avec au plan de ces mesures, ça aide les autorités sanitaires à mieux faire respecter en tout cas de tout ce qui a été édicté, notamment tout ce qui aide à la gestion de certains flux ou rassemblements au niveau de certaines zones ou de certains lieux ou bien au niveau de certaines cérémonies, etc.
Cela renforce le pouvoir des gouverneurs et préfets par rapport au respect des mesures sécuritaires et sanitaires.
Effectivement, donc, ça renforce un peu par rapport aux communautés, par rapport à la lutte au plan local, parce qu'encore une fois, cette lutte doit être la décentralisée au maximum possible.
Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, merci beaucoup.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Directeur de la prévention au ministère sénégalais de la Santé à Dakar, au Sénégal.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et en rappel, ce soir, nous parlons du rapport fait par deux parlementaires du Parti au pouvoir en France, LRM, sur le processus de délivrance des visas Schengen en Afrique par des consulats français, avec nos invités, dont certains sont déjà en ligne. Sira Silla, députée LRM, membre de la Commission des affaires étrangères, co-auteur du rapport. Madame la députée, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Amadou Tidiansi, journaliste, directeur et fondateur de l'école de journalisme EGICOM à Dakar et d'un site d'information à vocation sous-régionale, westaf.com, est également en ligne. Allô, monsieur Si, vous m'entendez?
Oui.
Allô, monsieur Tidiansi?
Oui, bonjour, je vous entends très bien, merci.
La liaison à Dakar n'est pas très claire et d'ailleurs nous sommes désolés pour la qualité du son tout à l'heure avec notre invité. On espère que la liaison sera meilleure avec vous, Tidiansi, à Dakar, puisque notre troisième invité est également en ligne de la capitale sénégalaise, Ismaël Dion. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de la réglementation touristique au ministère du Tourisme et des Transports aériens du Sénégal. Et enfin, en ligne d'Alger, Mosba Menad, bonsoir. Mosba Menad n'est pas encore avec nous. Il est spécialiste en relations internationales et professeur à l'université Ben Youssef à Alger. Je vais commencer avec vous, Madame Silla. Une semaine, jour pour jour, après la présentation de votre enquête, où en est le rapport dans son parcours ?
Sa publication à l'unanimité des membres de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Donc je m'en réjouis. Qui dit unanimité dit que tous les partis ont voté pour, parce que c'est une réalité. Et j'en suis très fière. Donc mon collègue Mjid El Guerab, je ne pouvais pas être présente, a rencontré ce matin le ministre de l'Attractivité, Franck Riester, pour la remise de notre rapport. Nous allons voir d'autres ministres et j'espère que plusieurs propositions de notre rapport seront entendues, parce que Mjid El Guerab, comme moi, travaillons beaucoup sur l'Afrique. Moi, je travaille spécialement sur les diasporas africaines. Je suis française, fière d'être députée de la République française, mais je suis aussi africaine. Le Sénégal, c'est mon pays d'origine. Et le président de la République a mis des objectifs, hein, discours de Ouagadougou. Je sais qu'il est convaincu de ce qu'il a dit. Donc, appliquons ce que le président de la République a demandé de faire. Le président de la République le martèle depuis 3 ans et demi. Il faut le faire parce que, comme je le dis, l'Afrique et la France, leurs destins sont inextricablement liés, quoi qu'on en dise. Nous avons une histoire ancienne et commune ensemble, donc travaillons ensemble. Et on ne peut pas laisser des pays qui ont une histoire moins ancienne et avec moins de liens faire ce qu'ils font. Parce que plusieurs maintenant...
C'est-à-dire avoir plus de visas que les Africains subsahariens.
Et comme je dis, les As sont pragmatiques. Hein. Beaucoup disent, si la France ne veut pas de nous, bah, c'est pas grave, on va aller ailleurs.
Et notamment en Chine, vous disiez des Djiboutiens. Mais en quelques mots, Madame Silla, qu'est-ce qui a inspiré ce rapport et comment ont réagi vos collègues parlementaires lorsque vous avez décidé de mener cette enquête? Est-ce qu'il y a eu un consensus ou il a fallu convaincre certains de vos collègues de ce que le problème est réel?
Non, c'était un consensus au sein de la Commission des affaires étrangères et vous me permettrez de saluer la mémoire de Marianne de Farnèse, grande grande politique convaincue pour l'Europe, pour le monde, pour l'Afrique, qui est décédé. J'étais à ses obsèques hier et ça m'a causé beaucoup de chagrin parce que j'étais très proche de notre présidente Marielle de Sarnez, grande présidente de la Commission des Affaires étrangères, qui faisait l'unanimité. Et j'ai une
qui vous a soutenue dans votre démarche.
À ses obsèques, qui m'a toujours soutenue pour l'Afrique. Qui est toujours, et que ce soit, elle a toujours été là pour moi. C'était une grande présidente de la Commission des Affaires étrangères, une grande femme politique pour la France,
merci,
pour l'Europe, et qui nous a soutenus. Donc notre constat, la Commission des Affaires étrangères...
Allô, Madame Silla.
Oui, vous m'entendez?
Oui, la liaison aussi se perd. Pourtant, vous êtes à Paris avec nous. Voilà. Terminez vos propos, s'il vous plaît.
C'était qu'entre le discours de Ouagadougou et la volonté très forte du président de la République, et encore une fois, je le dis, moi qui travaille sur l'Afrique, je sais que le président, je suis allée trop fort en déplacement avec lui. J'ai fait d'autres choses, je travaille beaucoup sur l'Afrique, notamment avec le conseiller d'Afrique. Le président de la République, il ne parle pas dans le vent.
Madame Silla, on verra bien tout à l'heure si le président, comme vous le dites, ne parle pas dans le vent avec certains éléments, et peut-être aussi en écoutant d'autres intervenants. Amadou Tidiane, si, je ne sais pas si vous avez lu le rapport, mais je suppose que vous avez les grandes lignes de celui-ci. On parle de délais trop longs, de visas trop chers, de multiplication de restrictions. Les entraves sont nombreuses pour les Africains qui veulent obtenir un visa Schengen à l'ambassade de France. Est-ce que vous êtes surpris par ce qui a été révélé par cette enquête?
Je ne sais pas ce que révèle le travail, je ne suis pas intéressé. Par contre, de par mon propre vécu, de par le vécu des gens que je côtoie, de par les témoignages que je reçois à cause du travail que je fais, je crois qu'il est très facile de dire qu'il y a un problème sérieux dans le droit des visas. Il ne s'agit pas seulement de la France, même si nous, vu les relations que nos pays entretiennent avec la France, ça nous choque encore plus venant de la France, surtout qu'à côté, il y a un discours mielleux, hypocrite, relations séculaires, relations d'amitié, coopération, mielleux. Ce discours mielleux, hypocrite, je crois, on doit le mettre de côté. Et c'est pour ça que moi, je me dis, sur des questions de visa, la France, la proposition, moi, c'est ce que je condamne, en tout cas, c'est ce que j'interpelle le plus, ce sont nos dirigeants, les dirigeants africains. Pour moi, ce sont les dirigeants africains qui manquent de points. Ce sont les dirigeants africains qui ne mettent pas ce point sur la table au moment des négociations sérieuses entre les États. J'étais ce matin en train de regarder le classement Henley sur les passeports. J'étais en train de le regarder sur, si vous avez la liste, une liste avec pays orange, ça va du vert jusqu'au rouge. Tout ce qui est pays africain, pratiquement une trentaine, voire quarantaine de pays, sont entre la zone orange et la zone rouge. Donc la zone où, sur à peu près 200 et quelques pays, 220 et plus pays, vous ne pouvez aller que dans 74 pays. Si dans ces pays-là, parmi ces pays, vous enlevez les pays africains ou un Africain pour voyager...
Et il n'y a pas de protestation du côté des Africains par rapport à ce classement?
Moi, je crois, protestation, je crois qu'il y a des citoyens, des individus qui de temps en temps, parce que vous allez dans une ambassade, vous avez un problème de visa, vous sortez, vous protestez, ça proteste un peu sur les réseaux sociaux, ça proteste dans les médias, mais il n'y a pas une protestation systématique au niveau des autorités des pays receveurs, si je peux les appeler ainsi, de la part des autorités de nos pays. Je crois que nos pays, les pays africains doivent prendre la question.
Merci.
Très au sérieux, ces gens ne peuvent pas venir chez nous quand ils veulent, comme ils veulent, exploiter nos ressources, investir, ouvrir des filiales de leurs entreprises, et en même temps, je crois, disons, rendre l'accès à leur pays difficile.
Merci Tidiane. Si, on va écouter justement la réponse de Ismaël Adion, qui est du ministère sénégalais du tourisme. Est-ce que vous comprenez la colère de M. Tidiane Si, des gens qui, les autorités qui ne protestent pas sur cette question d'accès difficile au visa, qui ne protestent pas alors que c'est les autres, on va dire les Français notamment, puisque c'est de cela qu'il s'agit, peuvent venir au Sénégal quand ils veulent, sans visa. Est-ce que vous comprenez cette colère de M. Si?
Oui, merci beaucoup et je salue M. Si au passage et l'honorable député Mme Silla. Donc, comme vous l'avez dit, je vais peut-être utiliser un autre mot que de protester parce que, comme vous le savez, avec la souveraineté des États, aujourd'hui, l'État sénégalais ou les États africains de manière générale ont des armes ou des outils quand même beaucoup plus appropriés pour aborder la question. Et je pense qu'il n'y a pas quand même absence de réaction parce qu'aujourd'hui, avec nos outils diplomatiques, voilà, on est en train toujours de voir comment améliorer, n'est-ce pas, l'accès au visa. Parce que vous le savez, je le dis tantôt, il y a la souveraineté des États. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour en tout cas faciliter ou améliorer vraiment l'accès au visa des ressortissants des pays.
Mais excusez-moi, monsieur John, est-ce que le constat est nouveau? Est-ce qu'il a fallu ce rapport pour que vous vous en rendiez compte? Ça semble une situation qui dure. Mais depuis que cela existe, depuis que ces pratiques existent, par exemple, au niveau de l'ambassade de France, et du consulat de France, pardon, et pas seulement, qu'est-ce que les autorités sénégalaises ont fait pour que cela change?
Vous savez, comme j'ai dit, c'est-à-dire l'outil principal que les autorités ont, c'est la diplomatie. Aujourd'hui, la demande de visa est individuelle, c'est-à-dire c'est une démarche individuelle, n'est-ce pas? Ce n'est pas sous recommandation de l'État qu'on aille déposer au niveau du consulat, au niveau de l'ambassade. Et souvent, le retour, le plus souvent, l'État n'a pas le retour. Mais on voit, comme l'a dit effectivement notre compatriote, souvent on voit des protestations, des gens qui quand même réclament, qui protestent, que vraiment ça a mal tourné pour eux. Mais comme je l'ai dit, de manière diplomatique, au niveau, en tout cas, du consulat de la France, au niveau du secteur, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, on essaie quand même de en tout cas, sensibiliser, encore une fois, tout en respectant la souveraineté.
Qui est-ce que vous sensibilisez, M. John? Les autorités consulaires sur place ou le ministère français des Affaires étrangères ou de l'Intérieur qui...
Oui, il y a souvent des compatriotes qui ont des difficultés et qui font recours maintenant au gouvernement, notamment au ministère des Affaires étrangères, ou bien s'il s'agit par exemple d'actes touristiques au niveau du ministère du Tourisme, qu'on puisse quand même faciliter. Et ça,
merci.
On le fait. Et voilà, donc je pense que, comme je l'ai dit encore une fois, nous allons en tout cas utiliser des outils beaucoup plus appropriés pour pouvoir aborder la question, parce
merci.
Que comme je l'ai dit souvent, aujourd'hui, le contexte actuel nous montre quand même qu'il y a une vulnérabilité commune que nous partageons. Donc, il y a de ces questions d'importance capitale que nous devons poser sur la table et en discuter pour trouver des solutions ensemble.
Merci beaucoup, diplomatie et pas... Merci beaucoup, Monsieur John. Vraiment, on est désolé pour la qualité de la ligne avec Dakar. On n'arrive pas à joindre pour l'instant notre invité Mosba Ménad, spécialiste en relations internationales à Alger. Je vais donc me retourner à nouveau vers vous, Madame Silla. Dans votre rapport également, on note que pour le cas de l'Algérie, c'est 45% de demandes de visa qui sont refusées aux Algériens. Est-ce qu'il y a une spécificité algérienne dans ce rapport?
Bon, les chiffres pour l'Algérie sont très importants. Mais moi, ce que j'ai envie de dire au-delà de l'Algérie, c'est que l'Afrique subsaharienne, c'est 15% de la population mondiale, madame. Et vous avez vu hein, les prévisions pour l'explosion démographique jusqu'en 2050. Donc, c'est 15%. Mais seulement 10% de visas délivrés en France. Comment fait-on? Nous avons une parallèle présidentielle, Emmanuel Macron, qui a donné beaucoup d'espoir aux diasporas. Jamais un président de la République ne l'a fait. Et on a fait beaucoup pour l'Afrique, parce que moi je travaille essentiellement sur l'Afrique. On a fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas encore à la hauteur des ambitions. Comment ce chiffre est normal? En sachant que la France et l'Afrique, et notamment l'Afrique subsaharienne, c'est une histoire commune et ancienne. Comment ces chiffres peuvent être ceci aujourd'hui. Parce que le souci, madame, c'est que le ministère de l'Intérieur prend de trop de poids sur le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, mon co-rapporteur et moi, ce que nous demandons, c'est un rééquilibrage de la politique. C'est un rééquilibrage. Le président de la République a mis des objectifs clairs. Plus de visas de circulation pour l'Afrique, plus de passeports talents pour l'Afrique.
Et il faut qu'on y arrive. Vous nous direz comment, Madame Silla, on va marquer une courte pause. On revient à vous dans un instant.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
18h30 à Paris, 17h30 à Dakar et en temps universel. Dans votre émission ce soir, nous parlons du rapport fait par deux parlementaires de LRM en France sur le processus d'octroi des visas Schengen en Afrique dans des consulats français avec nos invités Ismaïla Dion, directeur de la réglementation touristique au ministère sénégalais du tourisme, Amadou Tidiane Sy, journaliste, directeur et fondateur de l'école de journalisme EGICOM, et Sira Sylla, députée LRM, membre de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Et nous renonçons décidément à avoir M. Mosba Bennad, qui est en ligne d'Alger. Nous n'avons pas réussi à entrer en contact avec lui. Madame, je vous laisse terminer vos propos. Vous étiez en train de mentionner le discours de Ouaga, les déclarations, d'après vous, optimistes du président français Emmanuel Macron, qui souhaite plus de visas libre circulation et de passeports talent. Mais dans les faits, ce n'est pas encore le cas. Et c'est ce même président français, pour le cas de l'Algérie, qui a décidé et qui a demandé à son gouvernement de réduire le nombre de visas accordés aux Algériens, selon les déclarations de son ministre de l'Intérieur devant le Sénat.
Non, pour revenir au président, encore une fois, moi je travaille sur l'Afrique, hein, donc je sais que ce que le président fait, ce qui est mortel, moi je suis témoin, je suis allé 3 fois avec lui en Afrique. Donc le président de la République, lui, il donne la ligne. Après, il y a un gouvernement. Et en pratique, ce qu'on constate, c'est que le ministère de l'Intérieur, c'est le ministre qui décide.
Pardonnez-moi, madame, l'Algérie fait aussi partie de l'Afrique et c'est ministre de l'Intérieur a déclaré devant le Sénat que c'est le président français. Je termine, madame. A pris une décision très forte l'année dernière sur la réduction du nombre de visas à l'encontre de l'Algérie. Qu'est-ce qui prouve que ce qui est pris pour l'Algérie, les instructions données pour l'Algérie, ne le sont pas pour d'autres pays subsahariens?
Non, moi je dirais pas ça. Nous, ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est qu'il y a plusieurs considérations, et vous avez vu les 15 propositions qu'on fait dans notre rapport, c'est que malheureusement, lorsqu'on voit par exemple des étudiants, des artistes, des hommes et femmes d'affaires, beaucoup, en fait, des agents instructeurs, des ambassades, ne vont pas donner, parce qu'ils vont avoir peur qu'on leur dise « bah, vous donnez un visa alors qu'il ne faut pas le donner ». Mais non, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que, et encore une fois, moi je vais avoir plutôt un discours optimiste, c'est qu'on a une ligne définie par le président de la République qui nous dit qu'on a des liens très forts avec l'Afrique, qu'il faut une mobilité choisie et non plus une mobilité, on va dire subie. Quand on voit les pirogues au Sénégal, vous avez vu, avec les premiers qui sont arrivés, ils sont très bien arrivés, ils ont fait les vidéos, les autres, hein, ça n'a pas été le même destin. Donc nous, ce qu'on a vu de notre rapport, parce que au-delà de l'Algérie, c'est de dire, déjà, je vous ai dit, Afrique, on voit. La réalité des choses, c'est que l'Afrique, c'est le continent qui a le moins de visas délivrés. Quand je vous ai dit 15% de la population mondiale pour l'Afrique subsaharienne et seulement 10% de visas délivrés, ce n'est pas normal. Lorsque pour le
et vous pensez que les autorités politiques françaises ne sont pas au courant de cette réalité?
Madame, moi je pense que le président de la République est convaincu. Après, en France, il y a des fonctionnaires, il y a une administration, il y a des gens qui font. Moi, ce que je leur demande, c'est que le président de la République est clair dans son discours. Donc, il faut faire ce que le président... On a avancé. Le président de la République, c'est lui le président de la République. Il a défini une ligne claire. Donc, rééquilibrons les rôles des ministères. Le Quai d'Orsay, il faut que rééquilibrer les rôles au profit du Quai d'Orsay. Je pense notamment aussi aux
bénéficiaires, c'est-à-dire les affaires étrangères
familiales. Non, mais c'est très important. Nous sommes sollicités. Lorsqu'on a 365 personnes en Côte d'Ivoire qui ne peuvent pas venir en France alors qu'ils ont fait toute la procédure, qu'on leur a dit oui, vous pouvez venir, qui ne peuvent pas venir. Pareil, 800 personnes au Sénégal. Pourquoi ces gens-là, on leur interdit de venir? Alors que dans des pays comme la Belgique, comme l'Allemagne, ils ont droit avec le laisser-passer.
Ça, c'est en raison du Covid, il faut le dire. Vous parlez des Africains qui sont détenteurs de visas réguliers, qui en raison des restrictions de Covid, ne peuvent pas venir en France.
Le résultat de nos chiffres sur la politique des visas, j'aimerais bien en parler plus longtemps, mais il faut que je fasse passer les messages. C'est quoi? C'est moi, maintenant, on me dit quoi? On me dit, la France ne veut pas de nous, on va aller ailleurs. Allons aller ailleurs. La France n'est pas attendue, il y a d'autres pays dans le monde. D'accord? Vous le savez, madame, la Chine, la Turquie. On va laisser ça? On va laisser tout ça? Non, on ne va pas le faire. Et encore une fois, quand il y a une volonté présidentielle qui dit donner plus de passeports talents aux Africains, les visas de circulation, une personne qui a déjà fait des demandes de visa où ça s'est bien passé, pourquoi elle devrait en faire tout le temps? Le visa de circulation, c'est jusqu'à 5 ans. Pourquoi on ne facilite pas? Pourquoi on n'en donne pas plus?
Excusez-moi, pourquoi madame, vous posez des questions. Nous, on a lu le rapport, ce qu'on souhaite, c'est des solutions. Vous dites qu'il y a une volonté politique. On va voir ce qu'en pense Tidiane Sy sur cette volonté politique dont parle madame Sy. Est-ce que vous y croyez, que Tidiane Sy, qu'il y a effectivement une volonté de la France de changer les choses, que peut-être les autorités ont donné le bon signal, mais ce sont peut-être les fonctionnaires du consulat qui font du zèle?
Non, non. Vu de Dakar, en tout cas, là où je me trouve, il n'y a aucun effort. Absolument, on n'a aucun effort. Je vous donne un exemple. Les deux dernières fois que moi, Tidiane Sy, j'ai essayé d'aller en France, j'ai préféré attendre d'avoir quelque chose à faire en Allemagne, trouver un visa en Allemagne, parce que je trouve les Allemands plus courtois, plus organisés dans leur manière de délivrer les visas aux Africains. Ça, c'est une chose. Donc, il y a même dans la manière, je parle de la manière. Par exemple, moi, je ne vais plus à l'ambassade de France pour demander un visa. Même si je dois aller en Europe, je préfère avoir un visa dans notre pays Schengen, aller faire quelque chose, faire un crochet en France si j'ai quelque chose à y faire. Et de plus en plus, je me dis, non, je n'ai peut-être pas besoin d'aller en France.
Et pourtant, oui, vous êtes directeur d'école, journaliste expérimenté, confirmé. Alors, qu'en est-il des autres qui ont une situation sociale, je veux dire, moins que la vôtre?
Voilà, mais justement, et c'est pour ça que je dis, c'est là où c'est dommage que M. John prenne mon mot protester pour passer son temps à essayer de l'expliquer. Quand je dis protester, je parle de la manière de nos États de traiter avec ces États. Je crois, ce n'est pas la France qui va régler le problème des visas des Sénégalais qui veulent voyager. De la même manière que la France a une souveraineté sur son État, de la souveraineté dont parle M. Dion, je crois, le Sénégal a aussi la souveraineté sur son État.
Moi, qu'est-ce que vous voulez dire, M. Tidiane Sy, que c'est la faute aux dirigeants africains si on vit cette situation aujourd'hui dans les ambassades de consulats de France?
Un truc très simple, la réciprocité. Vous me demandez 40 000...
Allô, Tidiane Sy,
on va... faire la queue. Vous me demandez à mes ressortissants 40 000... Allô?
Oui, on vous avait perdu. Allez-y, M. Sy.
Je disais à mes ressortissants, plus aller. Allô?
Oui, on a changé. Voilà. On est passé de téléphone classique à WhatsApp. On espère que la qualité est meilleure, mais c'est entrecoupé. Mais allez-y, terminez vos propos, s'il vous plaît.
Que l'État français réclame une procédure, des frais. Je crois, si tous les États africains, et ça, c'est l'Union africaine qui doit le négocier. Je me souviens en 2018, je ne sais pas si ces problèmes sont encore réglés. L'Union européenne allait, lorsqu'il négociait avec les États-Unis, il négociait en bloc. Il disait, vous donnez, la réciprocité doit s'appliquer à tous les membres de l'Union européenne. Je crois que si les États africains négociaient en bloc en disant, voilà, c'est la réciprocité, si vous nous demandez le visa, on va demander à vos ressortissants le visa.
Merci.
Déjà, la perception, ça va changer. Cette perception de ce sont les Africains qui ont besoin de venir.
Et vous pensez que les États africains ont vraiment la marge de manœuvre, qu'ils ont les moyens d'imposer la réciprocité?
Cette marge de manœuvre, on se la donne. Il y a des pays qui se donnent cette marge de manœuvre. Malheureusement, il y a des pays qui ne se donnent pas cette marge de manœuvre, mais on se la donne, cette marge de manœuvre. Dans les relations internationales, il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien qu'on vous offre sur un plateau d'argent. Si vous négociez en vous mettant toujours en position de faiblesse, forcément, les gens vont vous prendre pour ce que vous êtes.
Merci. Merci, monsieur. On va permettre à monsieur Dion de s'exprimer sur cet aspect de réciprocité. Est-ce que c'est une piste que le Sénégal peut envisager, monsieur Dion, en vous disant, oui, si l'ambassade de France demande 40 000 francs de visa plus les frais de la compagnie qui sous-traite, qui reçoit les dossiers de visa, la France va exiger la même chose. Est-ce que c'est possible quand on sait déjà que les Français n'ont pas, à ma connaissance, besoin de visa pour le Sénégal?
Oui, mais vous savez, madame, bon, les relations internationales, c'est pas comme de la science exacte. Donc, du coup, c'est pas du donner, du recevoir, c'est pas des relations d'égalité, mais plutôt d'équité. Nous, on tient compte de notre niveau de développement, mais également tout en gardant notre souveraineté. Donc du coup, c'est pas la France a imposé ça, le Sénégal va l'imposer. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte.
Et la piste,
et la piste de
discuter en bloc dont monsieur parlait, Silas,
et c'est ce qu'on est en train de faire. Oui. Nous, on vient d'une rencontre avec la CEDEAO il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines. Donc, au niveau de lui et moi également, on est en train vraiment de voir comment, poser les débats de manière commune. Parce que, comme je l'ai dit, la COVID déjà nous a montré qu'il faut aller ensemble. Il faut aller ensemble, ce n'est pas de manière isolée, ou bien en mettant en avant, en tout cas, une certaine fierté qui souvent peut avoir des conséquences, fâcheuses sur, le devenir de nos États.
Aujourd'hui, Monsieur John, les certains Africains... Oui, pardonnez-moi. Terminez vos propos. Oui. Allez-y.
Non, c'est ça. J'ai dit, la France a sa politique à elle, mais nous aussi, nous avons notre politique à nous et nous tenons compte de nos réalités pour pouvoir, en tout cas, implémenter tout ce que nous pensons être bon pour devenir un État.
Est-ce que c'est cette réalité-là qui fait que, si moi, Liliane Niacha, camerounaise, je me retrouve à l'entrée, disons, à l'aéroport de Dakar, on me demande un visa, alors que le français... lui n'en a pas besoin. Est-ce que vous comprenez que les Africains soient choqués d'assister à ce genre de situation?
Je pense que c'est le point, ça fait partie des points que nous sommes en train d'aborder. Parce qu'aujourd'hui, quand même, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables entre pays africains.
On est en ça train existe quand même pourtant et discuter. Depuis des années.
Là, je l'ai dit là, depuis des années, mais la COVID aujourd'hui nous a révélé pas mal de choses. Donc, il ne faudrait pas quand même qu'on trouve des solutions de manière isolée, mais qu'on est ensemble. Entre Africains, le billet d'avion entre Abidjan et Dakar, souvent, c'est plus cher que le billet d'avion entre le Sénégal et Mila ou autre chose. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau africain. Et je pense que la solution, d'abord, c'est nous. La conception des Africains par rapport à l'Afrique, mais pas la conception des autres par rapport à l'Afrique. Je pense que c'est notre conception qui doit déterminer un peu la conception des autres.
Merci.
Donc, j'ai bien aimé, comme vous l'avez dit, qu'on règle d'abord nos problèmes intra-africains pour qu'on puisse ensemble solutionner les autres problèmes.
Madame Silla, est-ce que vous avez entendu au cours de vos enquêtes certains acteurs africains soulever ce problème de réciprocité? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un risque avec cette situation de difficile accès de visa pour les Africains en France?
Oui, bien sûr. Avant tout, je rebondirai sur ce que le précédent interlocuteur a dit. On subit quand même une pandémie mondiale sans précédent. En France, c'est très compliqué et ça, il faut quand même l'avoir à l'esprit. En revanche, nous, sur le terrain, et j'ai donné les chiffres pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal, on nous a dit, mais vous pouvez venir, et nous, on ne peut pas. Et nous, c'est ce qu'on nous demande. On ne le dit pas pour tout le monde, mais au moins pour les bénéficiaires du regroupement familial qui ont fait la procédure du début à la fin, 2 ans, 3 ans, ils pourraient venir en France, test Covid négatif, et après, une septaine. Voilà. C'est ce qu'on demande. On propose.
Et aujourd'hui, madame, après ce rapport, quel est votre meilleur espoir aujourd'hui? Quel est votre meilleur allié pour que ce rapport ne finisse pas dans le tiroir oublié et que les 13 recommandations faites soient enterrées?
15 recommandations, vous les avez. Et ainsi que je vous l'ai dit, le gouvernement, au moins entend, puisque mon collègue, moi je ne pouvais pas être présente, a déjà rencontré ce matin le ministre Franck Riester, qui est le ministre de l'Attractivité. Nous allons avoir d'autres rendez-vous. Le rapport, il a été voté à l'unanimité par publication à la Commission des Affaires étrangères, par tous les partis politiques, d'accord. Et donc voilà, nous ce qu'on veut, c'est...
C'est-à-dire y compris l'extrême droite.
L'extrême droite n'était pas présente, on ne les a pas vus, mais LR, ça a été voté de la gauche à la droite. Le constat, il est clair et net. Nous, on veut quoi? Que les bénéficiaires du regroupement familial, ils bénéficient toutes et tous d'une dérogation concernant la fermeture des frontières, eu lieu au contexte de pandémie mondiale. Le rééquilibrage du rôle du ministère de l'Intérieur et du Quai d'Orsay au profit du Quai d'Orsay, c'est très important. L'étude sur les étudiants étrangers où on raconte n'importe quoi, où on n'a pas de chiffres qui restent tous en France, nous on le veut. Nous, on
merci
veut plus
beaucoup.
De passeport talent. On veut plus de visas de circulation. On veut plus de passeport talent pour l'Afrique subsaharienne.
D'accord. Ça, c'est tout ce que vous voulez. Je demandais s'il est possible aujourd'hui de faire changer ce qui existe. Et vous allez nous dire tout à l'heure, juste après une dernière pause.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quelle suite sera réservée au rapport des deux parlementaires de la majorité LRM sur la délivrance des visas Schengen en Afrique dans des consulats français sur le continent? Nous en débattons ce soir avec Amadou Tidiane-Si, journaliste, directeur et fondateur de l'école de journalisme EGICOM à Dakar, Ismaëlla Dione, directeur de la réglementation touristique au ministère du Tourisme et des Transports aériens du Sénégal, et Sira Sila, députée LRM et co-auteur de ce rapport. Alors, Madame Sila, vous disiez que vous avez été soutenue par vos collègues députés de gauche comme de droite, à l'exception des députés du Rassemblement national de Marine Le Pen. Mais est-ce que vous pensez que, après tout ce soutien, il y aura un véritable déclic et que les choses vont changer, la manière de procéder et de délivrer les visas va changer dans les consulats français en Afrique?
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une volonté déjà de la représentation nationale, donc c'est très important. Et encore une fois, le gouvernement est très intéressé par le rapport. Il y a eu une première réunion ce matin, il va y avoir d'autres réunions avec les ministres. Donc je suis convaincue que déjà le rapport sera, et on parle du rapport, hein, il va y avoir des suites. Et ensuite, nous, en tant que parlementaires, c'est de, si je puis dire, transformer l'essai. Parce qu'encore une fois, il y a une volonté du président de la République, une volonté très claire, c'est pas du blabla. Moi, encore une fois, si vous regardez un peu ce que je fais, il me semble que je travaille beaucoup sur l'Afrique, en lien avec le gouvernement, avec l'Élysée. Le président de la République a défini une politique claire, il faut y aller, on a avancé, mais c'est pas encore assez. Et ce rapport, ce n'est que le début, nous l'avons présenté, les gens sont très intéressés, vous avez vu, le rapport c'était mardi, ce matin, mon collègue Mujid El-Gherab était avec le ministre Franck Riester sur le rapport. Donc on avance et il y aura des suites parce qu'il le faut impérativement.
Merci.
Pourquoi ? Parce qu'il y a un objectif présidentiel, parce que la France et l'Afrique, c'est le destin, leur destin est inextricablement lié. Nous avons une histoire ancienne et commune ensemble. Et
cela doit se traduire par les faits.
Cela doit se traduire encore plus, parce qu'il y a eu encore plus, je dirais, par les faits, et corriger l'injustice par rapport à l'Afrique subsaharienne, notamment l'Afrique subsaharienne, parce que c'est injuste, oui, de voir que c'est 15% de la population mondiale et seulement 10% des visas délivrés. L'Afrique est notre allié.
Merci.
L'Afrique est l'allié de la France. Et je tiens à le dire à tous nos amis africains qui nous écoutent.
Madame, vraiment un mot avant de passer la parole aux autres intervenants. Est-ce que vous pensez que cela a pu aussi alimenter le sentiment anti-français qui grandit en Afrique subsaharienne, alors qu'on entendait Emmanuel Macron accuser la Russie et la Turquie?
Je suis désolée, mais nos amis turcs et russes, moi j'ai rien contre eux, mais eux, ils jouent sur notre passé postcolonial pour dire aux gens, nous on n'a pas le passé que la France a, donc ça c'est une chose. Ensuite, le sentiment anti-français, ce sera plus ce qui arrive sur la zone Sahel. Nous, ce qu'on nous dit, non, je ne dirais pas.
Vous pensez que la question de refus systématique, parfois injustifié, des visas n'a pas pu alimenter cette colère des Africains?
Je ne dirais pas jusqu'à sentiment anti-français, mais ce que je dirais, c'est que les Africains disent, puisque la France ne veut pas de nous, moi je l'ai entendu plusieurs fois, c'est pas grave, nous aimons la France, on va aller ailleurs, il y a d'autres pays, et c'est ça qui est très grave.
Merci.
Il y a d'autres pays, et d'autres pays qui ont des liens moins anciens et une bienveillance beaucoup moins grande que celle que la France qui a, c'est ça qui est très grave.
Merci
et
beaucoup.
Moi, en tant que député de la
France, merci, madame.
Si vous me permettez...
Pour terminer, s'il vous plaît, il nous reste 3 minutes et d'autres intervenants doivent s'exprimer, madame.
Et en tant qu'Africaine, je ne peux pas laisser les choses faire comme ça, comme plein de députés, parce que la France, c'est peut-être mon pays, l'Europe, c'est mon continent, mais le continent africain, c'est aussi mon continent à moi.
Merci.
Et il faut résoudre les choses, parce que lorsqu'il y a une telle volonté présidentielle, il faut que ça suive derrière, quoi.
Merci, madame. Vous parlez de volonté présidentielle, Emmanuel Macron qui a justement déclaré dans une récente interview au TDNC que entre la France et l'Afrique, ce doit être une histoire d'amour. Vous y croyez qu'au nom de cet amour dont parlait Emmanuel Macron, les choses vont changer dans les consulats français, peut-être aussi
c'est
après ce rapport
C'est des choses qui me font rire. Je crois que ce qu'il faudrait peut-être dire à Emmanuel Macron, et je suis prêt qu'il le sait d'ailleurs, je suppose, puisqu'ils ont des services de renseignement, ils ont des services, ils ont des ambassades, ils ont des services de renseignement, ils savent ce qui se passe. Je crois que le discours, les gens se sont laissés berner. Peut-être certaines personnes peuvent encore se laisser berner. Et encore, je pense même qu'ils le font sciemment. Le discours ne peut rien contre la réalité. La réalité est que la France, les Français, les consulats français en Afrique ne respectent pas les Africains. Je suis un peu désolé pour ma sœur Silla, qui essaie, je comprends sa position inconfortable d'être sur deux camps, le champ africain, le champ européen, française de côté, africain de l'autre. C'est assez inconfortable. Mais pour nous, Africains qui vivons en Afrique, dire que les autres États sont plus moins bienveillant que la France, c'est une erreur monumentale, Madame Silla. Je ne peux pas croire que la France est plus bienveillante vis-à-vis des Africains que l'Allemagne.
Rien au nom de comparer, l'histoire.
Moi, non, je ne parle pas d'histoire, je parle de la réalité d'aujourd'hui, la réalité contemporaine que les Africains vivent. Je vous ai dit, allez à l'ambassade d'Allemagne, vous êtes Sénégalais pour chercher un visa, vous êtes trois personnes dans la salle, traitez respectueusement, on vous demande, c'est un rendez-vous électronique, vous venez, on vous traite convenablement, vous venez, vous avez votre visa. Vous essayez de faire la même chose. Les deux dernières fois que j'ai été en France, j'y vais pour 3 ou 4 jours, on vous donne exactement le même nombre de jours. Et je crois que c'est à partir de ce moment d'ailleurs que j'ai dit que je ne vais plus en France, je ne vais plus à leur consulat pour des visas.
Merci beaucoup, Tidiane Si. Ismaël Adjon, votre mot de conclusion, est-ce qu'il y a de l'espoir après ce rapport?
Oui, il y a de l'espoir et c'est pourquoi je voudrais féliciter l'honorable député et dire que quand même aujourd'hui nous partageons en tout cas ce point de vue selon lequel nous devons travailler à améliorer les conditions d'accès au visa, pas seulement pour pour l'intérêt de l'Afrique mais pour l'intérêt aussi des pays européens, notamment la France. Aujourd'hui, surtout les pays de l'Afrique francophone, je pense que nous partageons beaucoup de choses avec la France. Mais comme je l'ai dit encore une fois, nous devons travailler quand même à ce que l'on puisse en tout cas améliorer, n'est-ce pas, cet accès qui quand même n'est pas seulement pour l'intérêt des pays africains, mais aussi pour l'intérêt de la France.
Merci beaucoup, Monsieur Dion. Madame Silla, en 30 secondes, s'il vous plaît, quel est votre argument massu pour faire plier, disons, les autorités françaises afin que les choses changent sur le terrain?
Mais on n'a pas à les faire plier, le président de la République est convaincu. Je rappelle que le président de la République, il n'a pas...
Vous dites qu'il est convaincu, mais on entend Monsieur Si dire que lui, il ne l'est pas, que c'est une volonté de politiciens français.
Je suis dedans, donc je sais ce qu'il fait. Il n'a pas attendu d'être président pour l'Afrique. Il a fait son stage ENA, il était en Afrique, madame. Et après, moi, je suis africaine. La majeure partie de ma famille est en Afrique. Mes parents sont les seuls à être venus en France. Donc moi, j'ai un lien, je retourne toujours au village. Tous les ans, je retourne toujours au village. Ce que je peux dire, c'est que vous avez des députés déterminés. Parce que lorsqu'on parle de visa, madame, l'Afrique n'est pas le continent de tous les maux. Il en va aussi de l'intérêt de la France, que cela soit amélioré.
Merci.
L'intérêt de la France, c'est d'avoir une meilleure politique au niveau des visas pour l'Afrique. Il en va de l'intérêt de la France. L'Afrique n'est pas le continent de tous les maux. L'Afrique est un super continent, ce n'est pas le continent que certains décrivent. Et il en va de l'intérêt de la France. Si la France n'améliore pas cette politique, ça se fera au détriment de la France.
Merci
beaucoup.
Parce que
l'Afrique trouvera d'autres moyens, d'autres canaux avec d'autres pays.
Merci beaucoup, Sira Silla, députée LRM de la circonscription de Seine-Maritime et membre de la Commission des affaires étrangères, co-auteur du rapport sur les visas en Afrique dans les ambassades de France. Merci à Tidiane Si, journaliste, directeur et fondateur de l'école EGICOM. Et merci à Ismaël Adjon, directeur de la réglementation touristique au ministère sénégalais des Transports. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.